Die Schwierigkeit, Gruppen zu bilden unter den Autoren, die ist evident. Man kann einzelne Autoren in einer Art von Simplification zuordnen zu bestimmten Gruppen. Extremer Liberalismus, Demokratie, Rottek, mittlere Position, Mohl, Konservative, drei oder vier andere, Stahl natürlich. Das ist ein simples Verfahren, aber ich habe versucht, einfache Zuordnungen zu vermeiden und zu zeigen, dass diese Leute im Verlauf des 19. Jahrhunderts ihre Position sehr oft wechseln, nach Revolutionen, nach der Reichsgründung etc. Das lässt sich mit vielen Beispielen belegen. Das ist der erste Grund und erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die...
Ja? Ja, j'essaie de suivre avec le nom.
Entschuldigung.
Alors, la difficulté de... Je résume plutôt que je traduis. Hein. De ces classifications, pardon, elle est évidente. Et tu as essayé de, oui, tout de même, de donner une, comment, de ranger les auteurs singuliers de manière simplifiée dans des groupes. Alors, par exemple, libéral extrême, pour structurer la chose. Les libéraux extrêmes, l'exemple de Rottek, les modérés Mohl, les conservateurs Stahl, on peut assigner comme ça un grand nom à chaque groupe. Mais en même temps, il est important de dire que derrière cette structure, il y a le flux et le mouvement, et que tu as essayé de montrer que les fluctuations de ces auteurs, les changements d'opinion et de doctrine, notamment en fonction des grands moments historiques, là, la Révolution 48, la Fondation du Reich.
Ja. Und der zweite Punkt ist die Politisierung.
Oui.
Das ist ein vielleicht deutsches Problem. Wir haben keinen Staat. Erst ab Bismarck gibt es einen Staat. Wir haben eine hochpolitisierte Situation vor 1848. Da sind alle Professoren politische Professoren. Und dann kommen die Naturwissenschaften und die allgemeine Tendenz des Positivismus und auch die Juristen versuchen jetzt wissenschaftlich zu sein. Das heißt, die Politik nicht auszuschließen, aber in einer maskierten Form, indirekt, sind sie natürlich, wie auch heute, auch politische Wesen. Jeder Professor des öffentlichen Rechts ist ein Homo politicus. Das muss so sein, glaube ich. Deswegen ist die Trennung zwischen Politik und reiner Jurisprudenz ein Phantom, in der reinsten Form dann später bei Kelsen. Und selbst Kelsen hat nicht geleugnet, ein Homo politicus zu sein, aber auf einer anderen wissenschaftlichen Ebene. Also für mich war wichtig, in diesem Buch diese Phase vor 1848, was wir Vormärz nennen im Deutschen, als politische Phase zu verstehen und die zweite Hälfte des Jahrhunderts nach der Katastrophe der nicht gelungenen Revolution als Phase der als Phase scientifique oder scientificisation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Selbstverständnis dieser Professoren. Sie wollten sagen, jetzt machen wir Wissenschaft wie die Naturwissenschaften, wie in der Chemie oder in der Physik. Noch eine kleine Bemerkung, entschuldige, Olivier. Ich fand sehr interessant, was Sie gesagt haben zum Kontext, dem kulturellen Kontext, dem ökonomischen, politischen Kontext und der juristischen Theorie. Das ist ein Glaubenspunkt von mir, dass man das miteinander zusammenführen muss und nicht das juristische Element als Historiker isolieren. Ich fühle mich methodisch als Historiker und nicht als Jurist der Dogmatik.
Voilà, donc, voilà, pendant que j'y suis, je prends la dernière réponse. Hein. Donc la réponse à Nader, à Kim, c'était très intéressant sur les contextes, sur la question des contextes, et c'est fondamental pour Michael Stolleis de ne pas isoler le droit, de ne pas faire comme les juristes dogmatiques de la fin du 19e siècle, l'école de l'isolier, donc de ne pas isoler le droit, justement, de la politique, des sciences sociales, de la... et des contextes. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près. Alors, sur la politisation, là... Oula, j'ai beaucoup de notes, je casse tout. C'est un vrai problème allemand parce qu'il n'y a pas d'État avant l'unité bismarckienne. Hein. Or, le droit public est clairement politique avant 1848. Donc... et puis après 1848, pour des motifs différents, à la fois l'échec de la Révolution et la montée en puissance des sciences de la nature et d'une certaine modification du paysage intellectuel, les juristes veulent eux aussi faire du droit comme une science. Donc on ne peut pas échapper à cette scansion historique qui tourne autour de 1848. Avant 48, c'est la phase politique, la phase des professeurs politiques. Après 48, c'est une phase de scientificisation. Mais une scientificisation, si je résume comme ça, ça n'est pas l'accès à la neutralité, parce que ce n'est pas possible, parce que tout juriste de droit public est un homme homo politicus. Mais en tout cas, ça oblige à cacher l'élément politique. Donc à faire... de la crypto-politique, mais ça j'ai ajouté.
Par exemple, Laban ou Gerber.
Voilà, Laban ou Gerber.
Bon, ça c'est. Des hommes politiques.
Oui, mais on y reviendra.
Alors,
le mot politique aussi.
Maintenant, deux Olivier qui sont les plus proches de l'objet de cet ouvrage. Olivier Beau, tout d'abord.
Merci. Je suis moins proche qu'Olivier Jouangeant, donc il complétera le propos. Je voudrais d'abord remercier très vivement Pascal Gonneau de m'avoir invité à cette... Ah, le micro est... Il ne marche plus. Olivier Jouangeant a cassé le micro.
Non, c'est peut-être...
c'est moi qui...
Non, tu n'as pas appuyé là-dessus.
Je te donne un autre ici.
Non, mais là, apparemment...
Non, ça marche ici.
Non,
ça ne marche pas non plus.
Non.
Merci d'être venu.
Ah, moi, j'ai rien fait. Moi.
Bon, on va parler sans micro. Donc, je vais parler un peu plus fort. Donc, je crois que j'ai été interrompu lorsque je remerciais Pascal Gonneau. Donc, je la remercie une seconde fois de m'avoir invité à discuter ce livre de Michael Stolleis. Je voulais en profiter pour la féliciter pour cette très belle collection. Michael Stolleis est en bonne compagnie puisqu'il y a déjà Antonio Cassese et Norberto Bobbio dans cette prestigieuse collection qui permet de découvrir des grands juristes étrangers. Et je crois que c'est aussi un honneur pour Michael Stolleis d'être publié dans cette collection. Je voulais aussi en profiter pour remercier Michael Stolleis pour le fait de m'avoir accueilli, ainsi que Olivier Jouangeant à plusieurs reprises à Francfort, qui est un lieu et qui est toujours un lieu très important pour les chercheurs européens. Je voudrais quand même associer à ces remerciements Heinz von Haupt, qui est cité par Jean-Louis Mestre dans sa préface, puisque Heinz von Haupt accueillait souvent, très francophile, accueillait très remarquablement les jeunes chercheurs français un peu perdus à Francfort et était un guide très précieux. Donc je souhaitais associer son nom au remerciement que je voudrais faire. Alors, je vais parler d'un livre que j'ai déjà lu, mais il y a longtemps en allemand, et que j'ai donc relu en français. Alors en allemand, je ne l'avais pas lu intégralement, je dois l'avouer, parce que je fais partie des gens qui lisent un peu de manière segmentaire en fonction de mes objets de recherche, et donc je suis un mauvais élève qui lit de manière intéressée et qui ne lit pas forcément tout d'un livre, mais je pense que beaucoup d'entre nous le font, et on est obligé de le faire. Et là, pour cette recension, j'ai dû tout relire en français, et donc j'ai, je dirais pas que j'avais découvert le livre, mais je l'ai redécouvert, et j'ai, je pense, encore plus apprécié ce livre que je n'avais pu le faire la première fois. Je voudrais quand même dire deux ou trois choses sur les qualités de cet ouvrage. Elles ont déjà été évoquées, mais je voudrais synthétiser pour moi les grandes qualités de cet ouvrage, mais également, quand je dis cet ouvrage, c'est un ouvrage en quatre volumes, c'est donc à l'allemande, quatre volumes et pas seulement un seul volume. Il y a, je pense, la première grande qualité de Michael Stolaris, on pourrait dire que c'est une qualité allemande, mais c'est quand même ça, en tout cas moi, qui m'a attiré en Allemagne, c'est l'érudition, c'est-à-dire l'érudition sans faille, et les notes le prouvent. Ensuite, il y a une deuxième qualité qui est très particulière et très propre à Michael Stolaris, c'est sa qualité de synthèse. C'est-à-dire, c'est un historien qui sait résumer en quelques lignes le contenu d'un ouvrage ou le mouvement d'une pensée. Et ça, c'est extrêmement utile. Alors là, ce n'est pas pour le coup très allemand, puisqu'on reproche aux Allemands d'être toujours longs et trop longs. Pour le coup, cette qualité synthétique et de clarté est quelquefois à tort attribuée aux Français. La troisième grande qualité de cet ouvrage, c'est aussi, je pense, l'art très consommé qu'a Michael Stolaris de la citation. Il cite tout le temps, mais quand il cite, c'est toujours extrêmement pertinent, extrêmement éclairant, et ça rend la lecture encore plus agréable. Enfin, j'ajouterai deux choses très importantes qui me paraissent. Premièrement, son jugement très sûr sur les ouvrages et articles qu'il a lus. Donc on comprend en le lisant qu'il a lu les ouvrages qu'il cite, ce qui, comme vous le savez, n'est pas toujours le cas de certains grands mandarins allemands ou français. Donc il a lu, il a compris, il a digéré, et il a un jugement très précis. J'ai été frappé, par exemple, dans cet ouvrage-là, notamment de son jugement assez sévère sur Lorenz von Stein. Un passage, moi j'aimais bien Lorenz von Stein, mais comme ça, sans avoir vraiment lu à fond Lorenz von Stein, mais il démonte en quelques lignes la Verwaltungslehre en disant que c'était une œuvre totalement dépassée lorsqu'il l'a écrite, et ça explique le peu d'écho, et c'est assez bien vu, je crois, et on pourrait trouver dans plusieurs passages de son ouvrage des jugements personnels, mais jamais méchants, mais bon, c'est bien envoyé et c'est bien reçu aussi. Donc ça, c'est une qualité, à mon avis, une qualité, puisqu'il paraît qu'il faut être fade et tiède quand on est un auteur. Non, je ne crois pas du tout. Et enfin, dernière qualité, c'est son style. Il a un style tout à fait remarquable. Pour un juriste français qui lit l'allemand, c'est toujours agréable de lire, au lieu de lire Max Weber, de lire Michael Stolaris, parce qu'on comprend tout de suite. Alors là, c'est un petit bémol pour les compliments qui ont été faits aux traductrices. Effectivement, c'est très bien traduit, mais je dois dire qu'à la différence de Friedrich Müller, que mon ami Olivier Jean-Jean a eu l'imprudence de traduire, Stolaris, c'est traduisible. Voilà. Et donc, ça rend le travail des traducteurs, disons, plus facile. Ça n'enlève rien, car vous voyez que je suis très diplomate en vieillissant, aux qualités de la traduction, qui est d'une parfaite clarté, qui rend tout à fait hommage, je pense, au texte de Michael Stolaris. Donc voilà, je pense... j'ai voulu dire ça en introduction pour montrer à quel point ce livre résume parfaitement les qualités de Michael Stolaris qu'on trouve dans d'autres ouvrages, mais là vraiment c'est tout à fait frappant. Je voudrais aussi, dans cette introduction à mon propos, rappeler ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que c'est un ouvrage sur l'histoire de la pensée juridique publiciste, donc j'avais écrit ça, Nader Hakim l'a dit tout à l'heure, et l'auteur le dit d'ailleurs, page 13, il dit c'est l'histoire de la manière dont le droit public fut pensé, enseigné et écrit. Et il ajoute, page 13, l'analyse historique d'une pensée est révélatrice d'une réalité mentale passée. Donc c'est l'idée que l'histoire de la pensée juridique n'est pas déconnectée de l'histoire globale, et qu'on peut aussi penser ça comme un objet, mais il y a bien le mot pensée. Donc celui ou ceux qui ouvriraient cet ouvrage en ayant en tête l'histoire d'une histoire constitutionnelle et administrative de l'Allemagne, se tromperait. Il ne s'agit pas d'une histoire du droit positif allemand, il s'agit d'une histoire de la pensée juridique allemande sur ce droit positif. Et ça, c'est une clarification extrêmement importante à faire si on veut comprendre l'objet qu'est cet ouvrage. Dernière précision, et là je rejoins une remarque qui a été faite par Frédéric Audren, il y a quand même pour le lecteur français, je me suis mis un peu à la place d'un lecteur profane, une difficulté dans cet ouvrage, c'est que les allusions historiques ne sont pas explicitées. À partir du moment où Michel Stolaris fait une étude de la pensée juridique publiciste et non pas de l'histoire du droit, évidemment, il fait mention et allusion très fréquemment à des épisodes de l'histoire politique, constitutionnelle et juridique de l'Allemagne que les Français ne connaissent pas forcément. Je prends deux exemples. L'assassinat de Kotzebue en 1819, eh bien, j'imagine que dans cette salle, peu de gens savent à quel point l'assassinat de Kotzebue a été très important dans l'histoire allemande, puisqu'elle a provoqué les décrets de Karlsbad. Peu d'entre vous savent ce que sont les décrets de Karlsbad, mais enfin, c'est très important aussi pour comprendre à peu près l'histoire allemande. Il n'y a rien dans le livre qui permet au lecteur français, donc heureusement, nous avons maintenant Miss Internet ou Mrs. Internet, et il suffit de taper Kotzebue pour comprendre de quoi il s'agit, mais quand même, c'est bien, je pense que ça aurait été bien d'avoir des notes un peu du traducteur et de l'éditeur pour arriver, dans certains cas, à éclairer le lecteur profane. Donc, c'est un petit bémol que je me permets de faire, sachant que je ne peux pas en faire beaucoup plus, parce que je suis ici sous le contrôle de Pascal Gonod, qui dirige cette collection. Alors, maintenant, je voudrais arriver à peu près à ce que je voulais dire, c'est-à-dire ce que je voulais dire sur cet ouvrage, c'est simplement essayer de répondre à la question que je me suis posée, qui était de savoir ce qui pouvait éventuellement intéresser un juriste français, non pas forcément un historien, parce que je ne suis pas historien, qu'est-ce qui pouvait intéresser un juriste français qui lirait un tel volume, en partant de l'hypothèse qu'il n'aurait pas lu ni le premier tome qui a été traduit, ni les deux autres tomes qui ne sont pas encore traduits et qui le seront, j'espère. Alors, le premier intérêt, à mon avis, le grand intérêt même de ce livre, c'est qu'il propose simplement un panorama extrêmement exhaustif et intéressant de la science du droit public allemand. Donc, il y a un effet très important de connaissance nouvelle sur un objet qu'on connaît mal. Alors là, encore, j'ai aussi oublié de faire un bémol. Quand moi j'ai lu le livre, c'était en 92, j'ai énormément appris parce qu'il y avait très peu en français sur cette période-là du 19e siècle allemand. Il se trouve que depuis, donc c'est un petit bémol, mais en même temps c'est dû aussi aux travaux de Michel Stolaris, il a provoqué par ses travaux d'autres travaux à l'étranger et en France. Il y a quand même trois ouvrages qui méritent d'être ici notés, qui recoupent en partie ce que Michel Stolaris explique ici et qui fait que ce qu'il écrit aujourd'hui, enfin ce qui est publié aujourd'hui, est moins nouveau pour certaines parties. Il y a évidemment le livre de mon voisin, Olivier Jean-Jean, sur une histoire de la pensée juridique allemande qui est très riche, notamment sur la deuxième partie du 19e siècle. Et évidemment, pour les lecteurs français qui ont lu le livre d'Olivier Jean-Jean et ses articles fort intéressant sur Jelinek, ce que dit Michel Stolaris est moins original dans la traduction que c'était original en 1982. Et puis il y a également la thèse de Jacques Hummel qui a été citée par Jean Hummel sur le constitutionnalisme allemand, donc sur le Formert, donc toute la doctrine d'avant 1848, il y a beaucoup de choses dans la thèse de Jacques Hummel. Et puis il y a également la thèse d'Aurore Gaillet sur l'État et l'individu en Allemagne au 19e siècle, donc trois travaux très importants qui, en quelque sorte, font découvrir au lecteur français des choses qui sont déjà dans le livre, ce qui fait que le livre, d'une certaine manière, est moins original maintenant qu'il était il y a 20 ans. Mais il reste, je précise tout de suite, extrêmement important parce qu'évidemment, il couvre un champ bien plus large que les trois ouvrages que je viens de citer. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas l'équivalent, je me trompe, il n'y a pas l'équivalent d'un tel livre en français. Il y a en France une histoire du droit administratif. On peut dire qu'il y a une histoire du droit administratif, notamment le manuel de François Burdeau. Il y a également l'introduction historique au droit administratif de Jean Wimestre. À ma connaissance, il y a l'histoire de l'administration de Pierre Legendre et maintenant de Grégoire Bigot, mais il n'y a pas une histoire de la pensée administrative, en tout cas telle que la développe ici Michel Stolaris. Il n'y a pas non plus, à ma connaissance, une histoire de la pensée constitutionnelle française au XIXe siècle, pour des raisons qu'on pourrait évoqué, mais il se trouve qu'il y a une histoire constitutionnelle, mais c'est surtout une histoire de droit positif. Le grand volume de Maurice Deslandes, les trois ouvrages, trois tomes de Maurice Deslandes portent sur l'histoire constitutionnelle en tant qu'histoire du droit constitutionnel positif, mais il n'y a pas d'histoire de la pensée constitutionnelle. Et donc, ici, il me semble qu'il y a un apport très, très important qui est cette unicité du droit public qui est pris dans donc une unité. Alors, il y a finalement peut-être une raison à ce paradoxe, c'est qu'en France, on a connu une autonomisation du droit administratif assez précoce par rapport à l'Allemagne, puisqu'on a eu une théorisation à la fois par La Ferrière, ensuite par Auriou et Dugui. Donc on a un droit administratif qui est dogmatique assez tôt. Et on a un droit constitutionnel qui apparaît, une pensée constitutionnelle qui apparaît plutôt qu'en Allemagne. Donc là, c'est peut-être aussi un paradoxe, c'est que les Allemands, d'une certaine manière, arrivent après nous. Quand vous lisez la préface de Karl Schmitt, la Verfassungslehre, il dit qu'il n'y a pas de droit constitutionnel allemand. Il y a un Staatsrecht, et c'est uniquement après les Français que les Allemands vont autonomiser. L'adjectif constitutionnel en Allemagne, Verfassungsrecht, va devenir, le mot va devenir usuel à partir de 1928, l'année où Rudolf Schmitt publie son livre Constitution et droit constitutionnel et Karl Schmitt publie la théorie de la Constitution. Donc il y a une sorte de particularité. Pour ce qui concerne le contenu de ce livre, il y a quand même une interrogation que je voudrais proposer qui est la singularité de cette histoire allemande. Parce que tout à l'heure, Michel Stolaris l'a dit, l'Allemagne, au XIXe siècle, n'a pas d'État. Alors, il faut attendre le Reich, le deuxième Reich de Bismarck, donc 1871, pour qu'il y ait l'équivalent d'un État. Ce qui fait qu'un des grands apports de cet ouvrage, c'est de traiter d'une période qu'on connaît mal, vraiment, en France, qui est la période du Deutsche Bund, de la Confédération germanique. Et là, un des intérêts du livre, c'est de montrer qu'il y a eu une doctrine juridique allemande assez intéressante qui essaye de penser cet objet quasi-fédéral ou même fédéral qui est cette confédération germanique. Et ici, ce que montre bien Stolaris, c'est l'intérêt des juristes, et ce sont souvent des grands juristes qui ont étudié cette question, il en cite principalement deux, mais qu'il faut connaître parce qu'ils sont effectivement très bons, c'est Kluber et surtout Heinrich Zachariae, qui ont écrit des traités dogmatiques de droit fédéral, mais qui ont pour particularité de ne pas avoir eu d'écho. Et ce qui est intéressant ici, c'est la question de savoir pourquoi finalement ces ouvrages de droit constitutionnel sur la Confédération germanique n'ont pas eu d'écho. Eh bien, Michel Stolaris nous propose une explication, page 77, il nous dit, eh bien, parce qu'il était dangereux pour les juristes de se pencher sur ce droit. Il était dangereux de se pencher sur ce droit parce que, je cite ici Michel Stolaris, quiconque enseignait les droits publics d'après 1919, donc c'est le deuxième acte fondateur du Congrès de Vienne, la Confédération germanique, évoluait sur un terrain potentiellement dangereux, aussi bien subjectivement qu'objectivement. Nombreux furent ceux qui rencontrèrent des difficultés avec leur gouvernement. Fin de citation. Si je fais cette citation, c'est pour montrer un intérêt potentiel de ce livre pour nous, Français, qui n'est donc rien à voir avec l'histoire allemande, c'est une question de fond. C'est de savoir comment est-ce que les juristes publicistes qui pensent leur objet, comment peuvent-ils penser cet objet dans un contexte politique troublé, c'est-à-dire, pour le dire plus clairement, lorsqu'il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une contrainte politique forte qui fait que les juristes qui veulent penser leur objet sont en quelque sorte interdits de le faire parce qu'ils prennent des risques s'ils disent ce qu'ils pensent du droit. Et ce qui me paraît effectivement très intéressant, et c'est aussi, ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, et Michel Stolaris le montre bien dans ce chapitre-là, c'est qu'en même temps, les juristes qui décrivent la Confédération germanique ne sont pas certains du succès de cette forme instable. Ils ne savent pas si ça va durer. Donc ils hésitent à se lancer dans un travail de réflexion dogmatique sur un objet qui n'est pas évanescent, mais Michel Stolaris parle d'objet instable. Et ça me fait un peu penser, alors c'est très personnel, à l'Union européenne. Je me suis demandé pourquoi je n'avais jamais réussi à écrire ce que je voulais écrire sur l'Union européenne, c'est-à-dire comme un droit politique. C'est comme je ne suis pas un militant de la cause européenne, je me suis toujours demandé si ça avait le coup de prendre 10 ans de ma vie à étudier un droit qui n'aurait plus d'objet dans 10 ans. Voilà. Et j'ai pensé, alors c'est totalement anachronique ce que je dis, mais je me dis finalement, ces Allemands du 19e siècle, ils n'étaient pas si stupides. Bon, attendons avant d'écrire le gros traité sur le droit fédéral allemand, attendons de voir si ça dure. Bon, certains ont eu raison puisque ça a duré plus longtemps que prévu, mais ça a duré de manière extrêmement chaotique, comme il le dit très bien. Et deuxième exemple qui prouve le danger, en quelque sorte, d'enseigner le droit public, c'est le droit public sur la Prusse. Michel Stolaris conclut son deuxième chapitre sur la Prusse, après 1948. Il parle de la décadence du droit public, c'est-à-dire de la science du droit public allemande, et il dit, dans ces domaines précisément, la littérature fortement dépendante de la situation politique d'ensemble, là où régnait la censure, là où le droit public restait à l'état rudimentaire dans un espace non constitutionnalisé et où le droit non politisé pardon et où le droit administratif n'allait pas au-delà de la simple information de la loi, on ne pouvait espérer sérieusement voir prospérer la science publiciste. C'est donc au chapitre 7, page 427. On voit donc ici, pour un juriste français, on voit ici un objet de méditation possible. C'est-à-dire comment faire, comment peut-on être un juriste de droit public dans des conditions politiques aussi incertaines. Autrement dit, il y a un lien, et ça rejoint évidemment les observations faites tout à l'heure par mes deux amis historiens, il y a un lien évidemment, qu'on oublie aussi, entre droit constitutionnel, droit administratif et droit politique. Et comme je fais partie de des gens qui ont lancé la revue Ius Politicum, c'est une thèse qui m'intéresse fortement, c'est-à-dire la thèse sur laquelle le droit public est nécessairement du droit politique. Et là, on pourrait tout à fait le prouver par un autre exemple que Michel Echtolais a très bien développé dans son dernier volume, le quatrième volume, où il a comparé le droit de la RFA, la République fédérale allemande, et le droit de la RDA, en montrant très bien à quel point l'instabilité politique et l'autoritarisme politique qui existait en RDA, désolé pour les anciens communistes qui seraient présents dans cette salle, faisait que, évidemment, la science juridique allemande, eh bien, évidemment, n'avait aucune possibilité de s'exprimer. Et on voit très bien ici comment il y a un rapport étroit, même au XXe siècle, entre droit public et situation politique. Et c'est un des intérêts de ce livre. Et là, j'arrive à une remarque sur une question que je me suis posée en lisant le livre, après avoir lu le livre. Je me suis demandé, d'une certaine manière, si ce livre ne justifiait pas, d'une certaine manière, la thèse d'Adhémar Esma. Vous vous rappelez peut-être qu'Adhémar Esma, donc, qu'on considère chez nous, en tout cas, l'éco-socialiste comme le père de notre discipline, puisqu'il a écrit en 1896 le premier grand traité de droit constitutionnel moderne, élément de droit constitutionnel français et étranger. Et vous savez peut-être aussi qu'Adhémar Esma n'a pas étudié le droit public allemand. Il a écarté le droit public allemand. Ce qu'on lui a reproché, un professeur grec que tout le monde a oublié, dans une revue de Saint-Pétersbourg que tout le monde a oublié aussi, a écrit que c'était quand même bizarre de vouloir faire du droit, prendre en compte toute la littérature et oublier, dit Kobotrikra, c'était le nom du grec, pourquoi est-ce qu'il a oublié, pourquoi dit-il à Esma, pourquoi vous avez oublié la littérature allemande qui est si importante. Donc Esma a été un peu piqué au vif et il répond dans la préface à la deuxième édition. Il prend la peine de répondre à cette objection en disant « Voilà, je n'ai pas voulu étudier l'Empire, la constitution de l'Empire allemand et celle de la plupart des états particuliers qui le composent parce que moi, j'ai voulu étudier le droit constitutionnel de la liberté. À partir du moment où cet objet, les constitutions allemandes ne sont pas pour la liberté politique, il reprend la définition de Montesquieu, alors j'écarte de mon domaine la question du droit public allemand. » Et on ajoutera aussi que Dugy, pour la même raison, a constamment critiqué la doctrine publiciste allemande, considérant qu'elle était antilibérale et était donc à critiquer, alors même que les deux, c'est-à-dire aussi bien Esmin que Dugy, étaient des auteurs qui lisaient couramment l'allemand et qui ont beaucoup utilisé la doctrine allemande. Mais ils ont toujours considéré que la science juridique allemande devait être étudiée avec beaucoup de précautions parce qu'elle était autoritaire. D'où la question qui est de savoir, et que je poserai à Michel Echtolais, c'est ce que cette critique des auteurs français contemporains de la bande de Jelinek, est-ce que cette critique lui paraît valide ou est-ce qu'elle lui paraît simplement parasitée ou surdéterminée par un patriotisme virulent, puisque évidemment les juristes de la troisième étaient patriotes, comme on le sait. Voilà. Je finirai peut-être sur un point qui est aussi évoqué dans le livre, c'est que justement sur ce rapport avec la politique, un des grands apports de ce livre, c'est justement de bien situer les auteurs politiquement, et je rejoins tout à fait l'observation qu'a fait tout à l'heure Michel Echtolais sur le fait que le grand changement, c'est que après la victoire du positivisme, les opinions politiques, elles sont cachées. Et je finirai sur une interrogation qui est la suivante. Est-ce que finalement, même aujourd'hui, est-ce qu'en France, on n'a pas aussi ce même problème? C'est-à-dire qu'on a un prétendu positivisme, mais ces opinions politiques qui sont cachées, elles réapparaissent très vite. Et je prends juste l'exemple pour le droit administratif, parce que j'ai très peu parlé de droit administratif, mais parce que je ne suis pas administrativiste, mais quand même, on laisse souvent penser que le droit administratif est très souvent apolitique, ce qui est complètement faux. Et je vous renvoie à la dernière affaire qui a fait quand même beaucoup de bruit en France, l'affaire Dieudonné, qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, parce qu'elle a fait affleurer quelque chose qu'on sait, c'est que le droit administratif en France reste le droit de la raison d'État, et que c'est dans des cas très particuliers qu'on voit affleurer ce fond de vérité, et que, justement, c'est l'intérêt du droit public que de rappeler ces choses un peu désagréables et le rapport avec l'État. Alors, je voudrais, pas être trop long, peut-être plus de 5 minutes. Alors, je voudrais finir peut-être sur quelques questions que je voudrais poser à Michel Stolaz, parce que l'avantage quand on a un auteur devant soi, c'est qu'on peut lui poser des questions et qu'il peut aussi y répondre ou il peut aussi ne pas y répondre. La première question, il n'y en a que deux, je rassure tout de suite Pascal. La première question, c'est sur la motivation profonde de ce livre. Qu'est-ce qui fait que il s'est intéressé au livre? Alors, il explique dans l'introduction qu'il a voulu s'intéresser non seulement à l'histoire du droit, mais à l'histoire de la société. Il cite également ici l'historien Huxley qui explique comment, à partir d'un article sur Gierke, qu'on peut comprendre la société à partir d'une histoire du discours juridique. Donc, c'est une première réponse. L'histoire de la science du droit public est un moyen de comprendre une histoire de la société et de l'État, et pas seulement une sorte de pure histoire des idées. D'ailleurs, il oppose l'histoire de la science du droit telle qu'il l'a fait à l'histoire des idées politiques. Bien. Ça, c'est sa première réponse, tout à fait intéressante, et qui renvoie à des choses qui ont déjà été dites. Et puis, il ajoute, et c'est ce qui m'a intrigué, il ajoute, toutefois, c'est page 5 pour ceux qui auraient le livre, cette motivation n'était pas au premier plan de mon travail. Le facteur déterminant fut plutôt la curiosité de l'historien, désireux d'en apprendre davantage sur les tenants et aboutissants de la réflexion sur l'État au XIXe siècle, tout comme l'espoir de contribuer de manière indirecte à ancrer le présent dans l'histoire. Et là, je voudrais interroger sur cette idée de désireux d'en apprendre davantage sur les tenants et aboutissants de la réflexion sur l'État au XIXe siècle. À partir d'une interrogation toute simple, puisque Michel, tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où il n'y a pas d'État en Allemagne, au XIXe siècle, pourquoi voudrais-tu, à partir de ce livre, en apprendre davantage sur les tenants et aboutissants de la réflexion sur l'État? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que l'État est ici, en quelque sorte, au premier plan, dans ton explication de ton intérêt pour cette histoire, alors que pour moi, au contraire, il me semble que si le XIXe siècle allemand est intéressant, parce que j'ai un peu étudié la Confédération germanique, c'est parce que, justement, ça nous donne un exemple d'une fédération ignorée, c'est-à-dire une fédération qui n'est pas républicaine. Et donc, c'est ça qui me paraît intéressant. Dans l'histoire du droit public allemand, ce n'est pas du tout l'histoire de l'État, parce que cet État n'existe pas, il n'y a pas d'État allemand, il y a un État prussien, on est d'accord, mais il n'y a pas d'État allemand. Donc, j'aurais voulu avoir une explication sur cette motivation profonde. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qui fait que ce 19e siècle pour un Allemand est impressionnant? Peut-être, c'est mon interprétation, une supposition de ma part, peut-être que ce qui a intéressé Michel Stolaz, et ce qui politiquement, il faut quand même le signaler pour les auteurs, les auditeurs ici, est considéré plutôt comme à gauche dans la science du droit allemande, qui est plutôt conservatrice globalement. Donc c'est un progressiste. Et donc ce qui peut-être l'a intéressé dans l'histoire justement allemande, c'est cet échec du libéralisme allemand, cet échec qui a marqué l'histoire de la pensée allemande et qui explique en partie, alors on fait de la longue histoire, mais c'est peut-être l'échec du libéralisme allemand du XIXe siècle qui explique non seulement Bismarck, mais ce qui a suivi après Bismarck. Et vous voyez à quoi je veux penser. Je veux penser au Troisième Reich. Donc je pense que c'est ça. Il me semble que c'est pas la motivation profonde ne me paraît pas claire. Voilà. Donc je voudrais avoir une précision de la part de Michel Stolaz sur sa motivation profonde. Et la deuxième question que je voudrais poser, une série de questions sur les dettes intellectuelles de Michel Stolaz. Il y en a une qui est claire, c'est celle à maintes reprises faite à l'égard de Robert von Mohl, puisque Robert von Mohl a écrit ce grand livre sur l'histoire et la science du droit, la Geschichte und Literatur, et il avoue à plusieurs fois sa dette. Il avoue aussi son admiration pour le juriste très, très fin qu'était Robert von Mohl, juriste libéral aussi. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi il y a un silence dans son livre. C'est quand même le silence par rapport aux travaux de l'historien allemand Ernst Rudolf Huber, qui est un silence d'autant plus paradoxal que page 15 à note 8, d'ailleurs Huber ne figure pas dans l'index, ça je pense que c'est un oubli, mais note 8, il est marqué « Pour la richesse des sources, tous ces travaux sont surpassés par l'ouvrage de Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassung Geschichte », qui fait effectivement 8 volumes, je crois, avec 5 volumes, donc c'est la science allemande, là, dans l'érudition la plus parfaite, et c'est à mon avis un grand ouvrage, un grand travail. Et donc je voulais savoir quel était ici son rapport avec Ernst Rudolf Huber, dont je rappelle qu'il fut proche de Carl Schmitt, qu'il fut un nazi convaincu, mais qui fait partie, à la différence de Schmitt, des nazis qui ont renié leur engagement nazi et qui fut éliminé de l'université et qui a fait une œuvre de chercheur indépendant après la Seconde Guerre. Donc je voudrais savoir quel est son rapport avec cette histoire-là de Ernst Rudolf Huber, qui est extrêmement intéressante pour l'histoire du droit positif. Et ma dernière remarque, c'est sur deux auteurs qui n'apparaissent pas très nettement dans le livre, mais qui doivent forcément avoir été importants. Le premier, c'est quand même la Begriffsgeschichte de Koselleck. Est-ce que, parce que j'ai vu qu'il y a l'histoire du langage, est-ce que ça a été déterminant pour l'écriture de ce livre? Et puis aussi, par opposition, j'ai eu l'impression que ce livre visait aussi un peu à rompre avec le grand livre de l'histoire du droit allemand, qui est l'histoire du droit privé de Franz von Weehacker. Donc j'aimerais savoir quelle est la position de Michael Stolaris par rapport à ce grand ouvrage qui est celui de... Merci de votre attention.
Merci. Sans micro. Et...
Olivier, wenn ich Deutsch spreche, dann kannst du das noch einmal. Nein, du kannst es dann noch mal.
Ja, ich hoffe, aber ja. Es gibt Olivier als Prüfer.
Die erste Frage bezieht sich auf das Motiv. Was interessiert mich am 19. Jahrhundert, insbesondere am frühen 19. Jahrhundert? Ich bin überzeugt, dass auch die Geschichte vor der Französischen Revolution oder vor 1806 ganz entscheidend für unsere politische Kultur und unsere Rechtskultur heute noch ist. Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben vom Nutzen der Historie vor 1806. Da stecken die Überzeugungen drin. Das betrifft den Rechtsstaat, das betrifft die Présence de l'administration in unserem System und das betrifft das philosophische Interesse an der Ordnung, an der Systembildung. Das ist alles noch heute spürbar. Und als Historiker bin ich einfach ein être curieux. Ich will es wissen, weil mich der Staat und unser öffentliches Recht heute elementar interessieren, will ich es wissen, woher kommen wir? Das ist alles. Zu dem ersten Punkt. Der zweite Punkt betrifft Ernst.
Oui. Alors, Michel Stolaris dit que ce qui l'a intéressé dans son étude du premier 19e siècle, c'est de montrer que pour les Allemands, cette histoire d'avant, je résume, d'avant 1806, la chute de l'Empire, donc cette histoire est aussi importante et marque encore aussi l'Allemagne d'aujourd'hui. Et il prend comme exemple le fait qu'il s'est intéressé à des choses qui restent aujourd'hui, l'état de droit, la présence de l'administration et l'idée d'ordre. Donc, le système de
Et c'est pour philosophique lui,
système philosophique. Et donc, il y a une sorte de permanence. Et en tant qu'historien, évidemment, ce qu'il a voulu comprendre, c'est d'où venons-nous, c'est-à-dire d'où vient cette longue histoire, donc une sorte de primat de la longue histoire. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé, parce qu'un historien est curieux, ajoute-t-il, eh bien, il a voulu, ce qui est vrai d'ailleurs, il a voulu en quelque sorte faire cette recherche de longue durée.
Yeah. Die zweite Frage betrifft Ernst Rudolf Huber. Das ist ein schwieriger Fall. Ich bewundere seine historische Arbeit. Ich weiß natürlich, dass er Nazi war und dass er das große Nazi-Staatsrecht geschrieben hat. Ich halte ihn für einen politisch naiven Idealisten, der nicht gut verstanden hat, dass das Regime ein Verbrecherregime war. Er kam aus dem, wie sagt man, Jugendbewegung, Mouvement de la Jeunesse, ja. Und er war ein junger, idealistischer Mann und er glaubte, er könnte dieses NS-Regime irgendwie domestizieren. Das ist nicht gelungen, natürlich. Aber ich bewundere ihn als Autor einer Verfassungsgeschichte, die mir für meinen Geschmack zu harmonisch ist und vielleicht zu viel Hegel enthält, zu viel Synthese, zu glatt, zu wenig Widersprüche. Mit Koselleck hatte ich eine Debatte. Er verwendet das Wort Begriff anders, als es in der Tradition der Philosophie verwendet wird. In der Philosophie des 18. Jahrhunderts ist Begriff etwas Präzises. Bei Christian Wolff zum Beispiel etwas scharf Umrissenes. Bei Koselleck ist Begriff ein großes semantisches Feld. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Aber im Interesse an der Textanalyse bin ich mit Koselleck ganz einig. Ich habe mit Koselleck debattiert und gesagt, Begriff, ich liebe das Wort gar nicht. Je voudrais préférer le mot mot anstelle von Begriff. Aber Koselleck war auch eine Art Philosoph und er hat gesagt, nein, Philosophen brauchen Begriff. Das ist eine Differenz, ganz freundschaftlich.
Alors je vais résumer sur les deux auteurs. Donc, Ernst Rudolf Huber, Michel Strauss nous dit que c'est un cas difficile, qu'il admire son travail scientifique, son travail d'historien.
Après la guerre.
En revanche, il est obligé de reconnaître que ça a été sa compromission avec le régime nazi. Je rappelle qu'il a écrit un des rares manuels de droit public allemand nazi. Et donc, Michel Strauss dit que c'était un naïf politiquement, qu'il était membre des mouvements de jeunesse et qu'il a cru très naïvement qu'il pouvait domestiquer ce régime criminel nazi. Et sa deuxième critique à l'égard de Hans Rudolf Huber, du point de vue scientifique, c'est qu'il était trop hegelien, qu'il croyait que Huber présente l'histoire de manière beaucoup trop harmonique, beaucoup trop idéaliste d'une certaine manière, puisqu'il n'y aurait qu'une synthèse serait possible, alors que Michel Stolleis estime qu'il y a au contraire dans l'histoire des contradictions qui n'apparaissent pas assez dans l'œuvre de Ernst Rudolf Huber. Quant à Koselleck, je rappelle que le grand livre de Koselleck qui a été traduit en français, il s'appelle Le futur passé, aux éditions des École des hautes études, que Koselleck, donc Michel Stolleis dit qu'il a eu un débat avec lui, que sa principale divergence porte non pas sur l'analyse en détail des textes, avec lesquels il est plutôt d'accord avec lui, mais plutôt sur le concept de concept. Begriff, c'est le concept en allemand, que pour Michel Stolleis, au lieu de concept, on ferait mieux de parler de mots, et que Koselleck a une vision beaucoup trop large du mot de concept, puisque ça correspond globalement à l'idée d'un champ sémantique, et qu'il y a, du point de vue de Michel Stolleis, ici une déperdition de sens en ce qui concerne le mot même de concept. Voilà la manière dont l'opposition a voilà.
Merci pour cette brillante traduction. Je vais passer la parole à Olivier Jouangeant. Il passe en micro. Hein.
Oui, mais je reste sous le coup de l'admiration des traductions de mon collègue Olivier Beau. Je ne savais pas que tu maîtrisais aussi bien l'allemand. Mais c'était parfait, j'ai tout vérifié. Et puis je reste sous le coup de l'admiration que j'ai pour tous ces pseudo-incompétents, puisqu'ils ont tout dit. Alors, voilà, on annonce. Comment je peux faire maintenant? Ils ont tout dit.
T'as 20 minutes,
Maxime. Oui, mais en fait, j'ai plus rien à dire, donc ça va. Je vais allonger sur les remerciements. Mais si je veux commencer quand même par des remerciements, et bien qu'on l'ait déjà dit plusieurs fois, je dirais d'emblée merci aux traductrices. Et pour une raison qu'on n'a peut-être pas assez soulignée, c'est que c'est un travail lourd, ingrat, difficile, pas très... gratifiant, voilà, je cherchais le mot, pas très gratifiant. On les met, les traducteurs sont toujours dans l'ombre de l'auteur, parce que c'est Michel Stolleis, en grand, enfin j'allais dire en grand, mais en fait sur la couverture, t'es quand même en tout petit. Hein, en allemand, tu es plus grand. Mais j'ai envie de les dire, alors de leur dire merci, pour avoir... non seulement pour avoir fait une belle traduction, mais aussi pour avoir accepté de faire ce travail ingrat, même si Michel Stolleis écrit bien. Voilà. Mais je vais te remercier aussi, Pascal Gonon, mais excuse-moi, j'ai...
Pas pour la traduction.
Pour Donc je remercie aussi Olivier Beau pour la traduction et Pascal Gonon pour avoir eu cette idée de proposer ce grand livre dans la belle collection Rivage du droit chez Dalloz. Et merci aux éditions Dalloz d'avoir accepté de prendre en charge ce risque éditorial. Et enfin, merci à Jean-Louis Mestre d'avoir présenté ce livre avec l'érudition qu'on lui connaît. Maintenant, je me demande s'il faut que je remercie Michael Stolaïs. Pour une raison, pour la première raison, c'est, bon, pour le livre français, tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as pas beaucoup travaillé. Parce que, j'ajoute, pendant qu'on traduisait ton livre, tu rédigeais la version abrégée de la Geschichte. Donc en 200 pages maintenant, en allemand, 2014, chez Beck toujours, vous avez « Öffentliches Recht in Deutschland », le droit public en allemand. Bon. Et puis, j'ai quand même des raisons de ne pas être satisfait. Puisque, je pense que je ne suis pas le seul, je pense que Olivier Beau, Aurore Gaillet, ou Jackie Humel, s'il était là, serait d'accord avec moi. Puisque la Bible à laquelle nous nous sommes nourris, nous, est désormais accessible au public français. Donc ils savent, ils vont savoir tout ce que nous te devons. Notre originalité, voilà, c'est fini. Hein? Ils nous ont pris pour des esprits brillants, etc. Et maintenant, le poteau rose est dévoilé. Donc, nous nous considérions un peu comme les pontifes conservant le secret de choses un peu sacrées du droit allemand, n'en dévoilant que ce que nous voulions bien en dévoiler. Et voilà qu'on vient de publier l'étape de la loi. Alors nous sommes comme les pontifes, pas très contents. Il va y avoir des blessures narcissiques, mais elles vont tenir surtout à l'immensité de la dette que nous avons contractée auprès de Michael Stolaïs. Je veux dire, je suis incompétent, mais j'ai une compétence, c'est que je restitue un peu mieux la prononciation à peu près exacte du nom de Michael Stolaïs. C'est pas Michael Stolaïs. Bon, je ne vais pas entreprendre une sorte de laudatio de Michael Stolaïs, parce qu'on ne présente pas l'éloge de nos maîtres, surtout quand ils sont là. On les admire avec respect et en silence. Je voudrais quand même insister sur un point qui me paraît très remarquable. Alors, c'est un des rares points qu'on n'a pas encore évoqué. Ce qu'on a aujourd'hui en français, c'est 700 pages, et c'est le volume 2. C'est 4 volumes, ça on l'a dit. 4 volumes rédigés et publiés, parce que ça a commencé à être rédigé bien avant, entre 1988 et 2012 pour le quatrième volume. Donc, le premier volume a été traduit en français par Michel Sennard, on l'a dit, en 1998, 10 ans après la publication allemande. Le deuxième volume, la traduction est publiée en 2012, donc 20 ans après la première publication en Allemagne. Si je tiens compte de cette progression géométrique, d'allongement des délais de traduction, le troisième volume, on l'aura vers 2030, et le quatrième vers 2050. Alors c'est pour ça que j'ai quitté le 19e siècle, parce que maintenant je suis dévoilé, que j'ai environ 15 ans pour m'occuper de Weimar et des nazis, et ensuite il faudra passer à autre chose. Il va falloir donc patienter pour que le public français dispose de l'œuvre entière. Mais je me posais la question quand même de savoir quel est le juriste contemporain aujourd'hui qui a produit une telle œuvre. Une œuvre si imposante par le volume, plus de 3000 pages, je ne sais pas compter exactement, par l'érudition, on l'a dit, par l'ampleur historique, refaire toute cette histoire doctrinale, et pas seulement doctrinale, on y reviendra, du droit public allemand moderne, des origines, c'est-à-dire depuis la seconde moitié du XVIe siècle jusqu'à nos jours, puisque même le dernier volume qui dit qu'il s'arrête à 1990 ne s'arrête pas vraiment à 1990, il va jusqu'à aujourd'hui. Donc méfiez-vous, Michel Stolaïs ne donne pas toujours exactement les dates dans les intitulés, puisque le premier doit commencer au XVIIe siècle, mais il commence en vérité au XVIe, le dernier ne s'arrête pas en 1990. Voilà. Au sens propre du terme, l'histoire du droit public en Allemagne est donc une œuvre exceptionnelle à notre époque, parce que je peux me tromper, mais je ne vois pas d'autres exemples, alors sauf peut-être Huber, mais ça date déjà, d'une œuvre si monumentale écrite par un grand savant du droit, puisque nos traités, nos Handbücher contemporains, sont désormais normalement des œuvres collectives et plus des travaux individuels, ce qui leur fait perdre en unité de pensée et unité d'action. En fait, Michael Stolleis a écrit dans La patience même de l'érudition un livre, au fond, comme seuls les auteurs allemands du XIXe siècle dont il nous parle pouvaient encore en écrire, les Savigny, les Jering, les Labande, peut-être. Mais l'affairement universitaire contemporain, le betrieb du publisher, perish, nous interdit de facto de telles entreprises, les interdit à l'universitaire normal. Donc ce livre prouve une chose certaine, Michael Stolleis n'est pas un universitaire normal. Maintenant, je voudrais essayer de dire pourquoi le volume consacré au droit public allemand du 19e est fondamental et aussi pour les Français. Car il nous permet, il nous aide à repenser les fondements même de notre droit public. D'abord parce que c'est au 19e siècle que se forment les bases intellectuelles fondamentales du droit public. C'est au 19e siècle que se constitue le droit public classique, même si je sais qu'à Francfort, on n'aime pas beaucoup l'expression droit public classique. Mais c'est au 19e siècle que la pensée constitutionnelle devient une pensée du droit constitutionnel. Et qu'elle devient, ou se prétend être, ou prétend à la scientificité de son discours sur le droit constitutionnel. C'est dans ce long 19e siècle, depuis la Révolution jusqu'à 1918, que notre droit public et notre manière de faire du droit public, et je pense plutôt au droit constitutionnel, non, je ne pense pas plutôt, je pense au droit constitutionnel comme au droit administratif, et même l'organisation et l'articulation entre le droit constitutionnel et le droit administratif s'opère et se constitue. Bon, c'est bien sûr le legs de la deuxième moitié du 19e siècle, les Gerber-Laban dont on a parlé, de ceux qui veulent être scientifiques et non politiques tout en étant politiques. Mais il est préparé, ce legs de la deuxième moitié du 19e siècle, par cette rumination des questions constitutionnelles qui traversent tout le 19e siècle, depuis 1789, depuis ces longs débuts, depuis qu'il a fallu, non pas seulement en France, mais en Europe, et singulièrement en Allemagne, à cause de considérations que je n'ai pas le temps de développer, il a fallu digérer le moment révolutionnaire, l'épisode révolutionnaire. Et il a fallu réacclimater, on ne pouvait pas se débarrasser de la Révolution, mais il a fallu réacclimater, modérer, domestiquer son héritage dans une société et une politique qui n'étaient pas les siennes, qui n'étaient pas le rêve de la Révolution française. Donc les professeurs politiques l'ont fait d'abord, en tant que politique constitutionnelle, plus que ce que nous appellerions du droit constitutionnel. Et la pensée constitutionnelle de 1848, et les débats de 1848, de la Révolution, parce qu'ils sont tous là, les professeurs politiques, hein, pratiquement les grands, ils sont tous à l'Assemblée de Francfort. J'exagère. Donc je signale que, oui, il y a un très grand débat constitutionnel, c'est le débat français 1789-1791, c'est immense. Mais il y a un autre grand débat constitutionnel européen qui a, disons, cette qualité intellectuelle, ce niveau de pensée. Et ce niveau de pensée est d'autant plus intéressant pour nous qu'il doit revenir et domestiquer le moment révolutionnaire. Et c'est le moment 48 en Allemagne. C'est une assemblée constituante qui a qualité intellectuelle tout à fait considérable, tout à fait comparable au moins à celle de l'Assemblée, disons, de l'Assemblée constituante française. Or, donc il se passe bien des choses avant que l'on passe à la phase dite scientifique du droit public. Et tout tourne, et tout bascule en 1948. Et c'est le chapitre central du livre, non? Le 6, presque central. C'est la pensée, je ne sais plus comment il s'intitule, mais la doctrine publiciste dans la religion de 1848. Je crois, comme me le faisait remarquer Olivier Bourque, qu'il faut vraiment insister fortement sur ce moment 48 de la pensée constitutionnelle, qui n'est pas seulement un moment allemand, parce que il a une portée plus large et plus vaste, à mon avis, et qui est le moment du basculement de la pensée constitutionnelle et de la pensée du droit constitutionnel, à travers son ambiguïté même, hein, à travers le fait qu'il est un effort intellectuel incroyable pour pratiquer ce que tu n'aimes pas Hegel, mais je dirais la Aufhebung de 1789, c'est-à-dire dépasser, conserver et modifier et supprimer 1789. Effacer, en quelque sorte, tout en ne supprimant pas complètement. Et puis, le problème, que c'est un échec politique, un échec... et que je crois... Alors, pour l'histoire allemande, c'est un moment capital. Tu as parlé tout à l'heure, au détour d'une phrase que je n'avais pas... Enfin, je n'ai pas traduit ça... de catastrophe de 1848. Je crois aussi que c'est la grande catastrophe allemande, mais ce n'est pas la grande catastrophe du droit public allemand et de sa prospérité intellectuelle et de sa diffusion dans le monde européen et même au-delà du monde européen. Car si ce 19e siècle allemand, de la pensée constitutionnelle allemande, est décisif pour nous aussi, c'est que l'Allemagne joue un rôle capital dans la constitution d'un droit public européen. Et ce 19e siècle est précisément le moment constitutif de cette science du droit public allemand. Alors, après 48, il va s'agir de stabiliser ce constitutionnalisme allemand et de lui donner sa forme juridique scientifique. Le moment 48, c'est le moment politique capitale, et puis l'autre, on sort de l'instabilité. Il va s'agir pour les auteurs d'après 48 de donner, comme le dit Gerber, la garantie de la vérité conceptuelle au système constitutionnel allemand monarchique. Voilà, il le dit au début des Über öffentliche Rechte, il faut sortir de ces périodes d'instabilité. Ce qu'a dit Olivier tout à l'heure était très important, à mon avis. On ne peut pas faire de la science du droit constitutionnel dans des périodes où les constitutions dont on parle sont instables. Ce n'est pas possible. Il n'y a de science que du durable et du général. Donc, l'éphémère n'est pas objet de science. Il faut faire une science du droit public pour stabiliser les systèmes constitutionnels et les systèmes allemands. Et c'est cette science du droit public qui émerge à partir de 1852-1865, les premiers travaux de Karl Friedrich Gerber, et puis à partir de 1876 avec le droit public de l'Empire allemand de Labanthe, et puis ensuite le droit administratif d'Otto Mayer, et puis Jelinek et sa théorie générale de l'État. Donc cette grande science allemande du droit public, c'est elle qui va rayonner sur l'Europe, sur la pensée juridique européenne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est avec elle qu'on débat. C'est elle qui diffuse. Soit elle est reçue, parce qu'il faut savoir que, voilà, le labandisme, il a une diffusion européenne. En Italie, c'est connu, Orlando, en Espagne, Posada, etc. Mais aussi en Hongrie, en Grèce, aux Pays-Bas.
En Scandinavie.
Dans toute l'Europe continentale, oui.
Pas en Angleterre.
Mais les Anglais. Ah. On ne peut pas, perfide Albion. Et puis en France, même si tu as rappelé, je n'y reviens pas, les réactions très négatives, en fait, on peut comprendre aussi la constitution des grandes sommes du droit public français, disons, vers 1900, en négatif. Elle discute et s'oppose tu dis, c'est évident, mais on ne peut les comprendre qu'avec les Allemands, si on, qu'à partir des Allemands, comme réaction aux Allemands. C'est-à-dire, pour lire Duguay, si on n'a pas lu les Allemands, je crois qu'on comprend mal Duguay. Et pareil pour Karel Valberg. Bon. Je ne parle pas de Rioux, parce que ça, on ne sait pas bien. Ben enfin, il est aussi... Oui, mais Rioux ne parlait pas l'allemand. Donc, il ne le lisait pas. Donc, le droit public allemand du 19e, c'est le ferment même de la pensée européenne du droit public. De la notion de puissance publique. Voilà, le droit de la puissance publique. Mais on comprend, quand on lit Gerber, que la domination devient le critère de distinction du droit public et du droit privé. De la notion de personnalité juridique de l'État, qui n'est pas une donnée de toute éternité, mais une construction dogmatique des juristes, voilà, de la deuxième moitié du 19e siècle. De la notion d'organe. Et cette notion de la personnalité juridique de l'État entraîne, ce qui me semble quelque chose de tout à fait fondamental, l'attribution de la souveraineté, et non des droits de souveraineté, à la personne de l'État, support de ses droits. Alors nous avons une belle construction là, on a une belle construction dogmatique, très abstraite, très scientifique. Mais en fait, si on y réfléchit, ce n'est pas seulement la conclusion scientifique ou le discours scientifique sur un processus de dépersonnalisation et de dépatrimonialisation du pouvoir, parce que c'est aussi une réponse scientifique qui désincarne la souveraineté, qui l'attribue à la personne abstraite de l'État, à une fiction juridique. Je le laisse tomber, c'est une fiction, une réalité, on s'en fiche. Mais à une personne abstraite. Et ça c'est une manière scientifique, entre guillemets, voilà, scientifique, politique ou pas, de désamorcer ou de pacifier, en tout cas dans le discours du droit constitutionnel, le conflit entre souveraineté monarchique et souveraineté populaire. On le sort de son opposition, on dit c'est l'État, tac. De résoudre par la voie de la science du droit ou d'une pseudo-science ou de ce qui se présente comme une science du droit, le grand conflit du 19e siècle entre révolution et restauration. Et voilà, on voit comment une construction dogmatique, à mon avis, vient essayer de surmonter le conflit. Et on voit très bien aussi comment il s'agit de donner de la stabilité, de la durée, de la durabilité, de conforter la durée des systèmes. Eh bien, je crois que quand on s'intéresse à l'histoire de la pensée juridique allemande, on voit très bien cela, et peut-être... Mais c'est parce que je ne connais pas suffisamment les Français, mais peut-être mieux que dans l'histoire française. Bon, ça, c'est quelques remarques. J'arrive presque à la fin, déjà. Oui, mais je ne suis pas à 20 minutes.
Si.
Non, bon. Si.
Presque.
Bon.
Non, non, si.
Bon, ben, voilà. Moi, je n'ai plus...
Non, vas-y.
Alors, il y a un point sur lequel, au fond, derrière... dans ce livre aussi, le 19e siècle allemand, c'est pas ta faute, c'est la faute du 19e siècle allemand, se pose le problème de l'unité. C'est-à-dire, quel est le droit public allemand ? L'histoire du droit public en Allemagne, pas le droit public allemand, en Allemagne. Mais le droit public, ce singulier est singulier. Ce singulier n'est pas du tout facile. Et il faut le rappeler, est-ce que c'est du droit public comparé allemand ? Droit public comparé des États allemands ? Le droit public commun, voilà, et ou alors les principes fondamentaux des droits publics, puisqu'il y a quand même au moins trois positions. Mais avant même de penser, avant même d'avoir à penser l'unité fédérale bismarckienne, voilà, 1866-67 et puis 1871, il y a à penser l'unité de cette diversité du droit public. Je pense que bon, ton livre nous permet de penser ça. Donc, et le dernier point, alors, voilà, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est une histoire du droit public. Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Et pourtant, on a l'impression de lire une histoire de la science du droit public. Bon, tout le monde est d'accord. Mais moi, je pense, et je vais aller plus loin, je crois un peu plus loin que ce qu'ont dit mes collègues et camarades. Je crois que ton livre montre que l'histoire de la science du droit est une partie intégrante et constitutive de l'histoire du droit tout court. Je vais plus loin qu'Olivier Beau, c'est pas l'un à côté de l'autre. Je crois que ton effort est une intrication de ces deux domaines. L'intrication de l'histoire du droit dans l'histoire politique, économique, sociale, intellectuelle, institutionnelle sur les universités. Moi, c'est Nader qui a dit, je trouve ça absolument décisif de refaire le paysage institutionnel universitaire. Et puis, donc tu mets en scène des conflits d'interprétation dont, qui expliquent comment certains concepts s'établissent, plus ou moins durablement, ils vont disparaître, ils vont se modifier. Et tu nous montres la dynamique des concepts juridiques, alors que pourtant nous les croyons, nous, toujours bien installés au ciel des idées. Mais et ils ne sont pas les concepts juridiques. Tu permets de comprendre l'historicité des concepts. Une sorte de Begriff que Schichtemann, si tu n'aimes pas. Mais au sens de Kozlek. Au sens de... Pas une histoire des idées juridiques, une histoire du concept, au sens de l'école de l'histoire des concepts, si on peut l'appeler comme ça. Mais tu ne rabats pas la science du droit dans une simple sociologie ou dans une simple politique. C'est-à-dire, je ne sais plus si c'est Frédéric Audrey, je crois. Tu prends quand même les idées juridiques aussi au sérieux. C'est pour soi cette intrication entre les contextes et les textes, si on veut dire ça comme cela, nous permet d'avoir à la fois une histoire des idées, de comprendre le régime d'historicité de ces idées, mais d'avoir aussi une histoire des idées. Que ce ne sont pas des choses en l'air ou sans importance. Donc, tu ne fais pas une simple sociologie de la pensée juridique, ce que j'aurais trouvé désastreux, mais tu nous permets de comprendre la pensée juridique dans son régime propre d'historicité et dans son régime propre de pensée. Et c'est ça que je trouve remarquable, et c'est pour ça que je te lis depuis 30 ans, 20 ans.